J'ai l'impression que ça tourne.
T'as pas oublié la carte cette fois, Grégory?
Ça fonctionne.
Tu te souviens de la fois où on a fait tout un épisode qu'on n'a pas enregistré?
Le deuxième était meilleur. Ça va.
Bon, 1-2-1-2.
J'ai
c'est bon là,
que ça
franchement,
marche.
Ça tourne.
Ouais, on peut y aller.
T'as appuyé sur le bouton? Ok. Et vous avez mis vos bonnettes respectives sur les micros,
ah
c'est
non,
bon?
Ah non, je peux mettre le micro. Ah, vous
voulez? Non. Moi, j'en ai une de France. Hein.
Moi, j'ai les Suisses.
Ah, vous les avez mélangées.
Mélange de bonnettes.
Bon, les amis, c'est la dernière et j'ai hérité de la lourde tâche de conclure ce qu'on va appeler l'aventure Washington DC. Il y aura des larmes, de l'émotion, des souvenirs. C'est un épisode un peu spécial aujourd'hui qu'on vous propose. On a décidé de revenir sur ces 14-15 derniers mois d'actu américaine vécus au travers de ce balado. On s'est installé sur les bords du Potomac. Derrière nous, on voit le Watergate. Vous vous rappelez, c'est là que le balado a débuté.
Premier épisode, on avait tourné ça dans l'immeuble du Watergate. On était même allé dans la chambre des fameux espions de l'affaire Nixon.
Et juste derrière, il y a le Kennedy Center, un lieu magnifique, hein, une salle de spectacle où on a pu aller voir des comédies musicales, mais pas cette année, hein, malheureusement.
Et là, on est au bord donc du Potomac, on voit des petits canards, beaucoup de familles qui se promènent, on sent que c'est bientôt le printemps, mais il y a quand même des tentes où on peut faire des tests Covid, et donc cela nous rappelle qu'on est encore en pleine pandémie à Washington.
Mais c'est vrai que l'ambiance est assez agréable à l'extérieur, il y a même un musicien qui s'est installé pas très loin de nous. Et pour que vous compreniez bien peut-être les défis qui sont associés parfois à l'enregistrement de ce balado, ben on a dû déplacer la console pour pouvoir enregistrer l'épisode, pour pas qu'on entende constamment derrière nos voix ces bruits de guitare.
Raphaël, un détail gastronomique, juste derrière nous, un restaurant de poissons assez célèbre, très bon et très cher à Washington. Célèbre pourquoi? Parce que les Obama ont l'habitude d'y fêter leurs anniversaires de mariage.
Bon, voilà, le décor est posé, on est effectivement assis dans l'herbe, juste à côté du Potomac, où l'on voit passer parfois des yachts, notamment le propriétaire de l'équipe de football, anciennement les Redskins, passe de temps en temps. Donc l'équipe, et c'est rare, pour une fois au complet, avec
Anne Corpet, RFI,
Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada,
Sonia Dridi, RTBF,
Grégory Philips de France Info,
Raphaël Grand de la Radio-Télévision Suisse. Vous êtes prêt, Grégory? Franchement, ça tourne? T'as vraiment appuyé sur rec?
Je vois pas
je
le rouge.
Je crois que ça tourne. Non, non, c'est rouge. Non, franchement, ça marche.
Ok, épisode 36, intitulé The End, la fin. Doudoudoudoum.
Do you miss me yet? Do you miss me? Our politics has become so mean, so petty, so negative, so partisan, so angry, and so unproductive.
Washington, D.C.
America is back. America is back.
On l'entendait dans le jingle, à l'heure de conclure ce balado, America is back. Biden annonce le retour de l'Amérique et Trump, lui, n'a pas tout à fait quitté l'arène politique non plus. Politique, pandémie, ouragan, inondation, fusillade, élection, manifestation. Ce sont ce genre d'événements qui rythment le travail d'un correspondant aux États-Unis. Je vous ai demandé, pour ce dernier épisode, d'aller, on va dire, explorer vos archives et de me ramener un extrait de reportage qui vous a marqué, un morceau d'Amérique sonore pour nous faire voyager. On écoutera ça tout à l'heure, mais avant, voyageons un peu au travers de ce balado. Donc, 36 épisodes, plus d'un million de téléchargements et beaucoup, beaucoup de lieux visités où on a amené notre fameuse vieille valise, Grégory.
Vieille valise, ouais.
Vieille valise dans laquelle on a donc une console d'enregistrement. Et je vous demanderai de respecter un peu cette antique valise, car elle appartient à ma maman qui me l'a prêtée pour
la. Ah, d'accord.
On la remercie.
C'est mon accoudoir, là.
Mais enfin, elle dénotait un peu parmi les autres bagages qu'on pouvait apercevoir, par exemple, lors de l'enregistrement du numéro 3 à l'hôtel Trump, très chic.
Ah oui, c'est
vrai. Je me souviens, c'est le premier épisode où j'avais assumé la rédaction en chef et j'étais un peu stressée. Raphaël, tu m'appelais, tu me disais non mais t'es sûr que tu veux faire comme ça, et j'étais un petit peu tendue, j'avais bossé comme une malade avant. Bon, pour la suite, ça s'était un peu allégé. Je me souviens d'un épisode où j'avais écrit la trame en moins d'une heure au milieu de la nuit.
Mais pour l'hôtel Trump, d'ailleurs, je me rappelle, on avait dû changer d'endroit parce que la musique était trop forte.
En fait, on change toujours d'endroit 3-4 fois.
On avait même demandé à l'hôtel de baisser la musique, si je me souviens bien.
On vous a aussi emmené dans les coulisses des institutions américaines, le Congrès, son petit train, la Maison Blanche aussi. Tu y étais encore ce matin, Sonia.
Oui, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'arrive à aller à la Maison Blanche à l'époque Biden avant la fin du podcast. Et donc, j'ai pu y aller ce matin. Alors, c'est vrai que c'est assez compliqué. Maintenant, il y a très peu de place en raison de la pandémie. Évidemment, les journalistes étrangers, on n'est pas prioritaire. Alors hier, ils ont eu du mal à trouver mon nom. Vous pouvez les entendre. Là, ils me redemandent d'appeler mon nom.
Dridi.
Voilà, Dridi.
Mais je vois que tu as un bracelet rouge sur le bras, donc tu as finalement réussi à être testé.
Oui, finalement, j'ai réussi à y aller ce matin et à montrer patte blanche. Il faut rentrer dans une petite maison qui se trouve sur la droite du parc. Et souvent, moi, je me demandais, elles servent à quoi ces maisons? En fait, il y a des annexes de la Maison Blanche. Et dans cette petite maison, on passe le test Covid qui permet ensuite d'entrer enfin dans la Maison Blanche, qui est plutôt calme en ce moment. Il y a évidemment les briefings quotidiens. Mais sinon, quand il n'y a pas ces briefings, on entend surtout les techniciens parler entre eux, se faire des blagues. Et c'est vrai que c'est une autre atmosphère. Et on sent quand même que c'est très maîtrisé. Et je me demande même si cette pandémie n'arrange pas un peu l'équipe Biden, parce que évidemment l'entrée des journalistes est plus compliquée.
Bon, avec Biden, on est revenu au briefing quotidien quand même, dans la Maison Blanche. On s'est aussi retrouvé dans d'autres endroits plus originaux, on va dire, la cuisine d'Anne Corpé, un lieu très sélect de la capitale. On s'est parfois aussi réunis loin de Washington.
Et c'est toujours agréable de se retrouver sur le terrain. D'habitude, on peut prendre le temps de discuter, d'échanger un peu, mais parfois, on se retrouve aussi dans des moments qui sont un peu plus tendus. Je me souviens, Raphaël, quand on s'est croisé à Minneapolis dans les manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd, on a eu à peine le temps de prendre un selfie ensemble pour le super compte de Washington, D.C. Et puis, quelques secondes après cette photo, la police anti-émeute a débarqué.
Oui, on entend le gaz lacrymogène, les coups de feu. Il y a une expression québécoise pour ça. Comment tu avais dit que c'était ça brasse ou ça nage, ça croule?
Ça brasse. On peut dire ça brasse. Et là, ça brasse, certainement.
Moi, je me souviens, je garde un très beau souvenir des caucus de l'Iowa.
Ouais, c'était super.
On s'était retrouvés dans ce gymnase. C'était le tout début de la présidentielle. Je vous parle d'une époque avant le Covid, évidemment. Et où on avait assisté à cette démocratie américaine en action avec les gens qui votent avec leurs pieds, qui se déplacent dans un coin ou l'autre de la salle. Vraiment, c'était très impressionnant. Et là, vraiment, ça nous a permis d'être au cœur de l'événement politique, au cœur de cette campagne présidentielle, parce que on s'était même enregistré au milieu des militants politiques qui votaient qui pour Joe Biden, qui pour Pete Buttigieg, qui pour Elizabeth Warren.
Et vous vous souvenez du peu d'enthousiasme à ce moment-là que suscitait Joe Biden?
Incroyable.
Quand on regardait son faible nombre de partisans, comme quoi les choses peuvent changer en politique américaine.
On n'aurait pas parié sur lui sous notre panneau de basket ce jour-là.
Ces étranges caucus, ça n'avait pas très bien marché d'ailleurs. Pour obtenir les résultats en Iowa, ça avait pris plusieurs jours. Coulisses encore, on prend un peu le temps aujourd'hui dans ce balado de se rappeler certains épisodes de cette aventure Washington DC. Moi, je me rappelle de Raphaël Bouvier-Auclair qui fait un direct au milieu de l'enregistrement du podcast. Je crois que c'était en Ohio.
À Cleveland, au lendemain, ce fameux débat incroyable entre Donald Trump et Joe Biden, où il s'était écharpé comme jamais.
Ou alors Grégory qui prend un avion entre deux tempêtes de neige, ou même Sonia Dridi avec Cheyenne, son bébé, devant la Maison Blanche, non, au lendemain de l'élection.
Oui, on était contents de le rencontrer.
Ça avait compliqué un peu l'enregistrement, mais c'était parfait.
Washington DC, 36 épisodes et aussi 9 hors-séries pour comprendre les rouages de cette démocratie américaine avec toutes ses subtilités. Des hors-séries concoctées par Eric Guevara-Frey et Jordan Davis. Je vous propose qu'on les appelle quelques minutes.
Oui, allô?
Salut Eric, Raphaël est à l'appareil.
Salut Raphaël.
Hello Eric.
Salut.
Salut.
Salut DC.
Donne-nous encore 2 secondes, on connecte Jordan Davis qui doit répondre tout de suite, je le rajoute. Jordan, est-ce que tu nous entends? Ça sonne chez Jordan. Allô?
Allô?
Salut Jordan.
Et salut Raph.
Salut Jordan.
Vous êtes tous là?
Mais oui,
Alors, Eric Guevara-Frey, Jordan Davis qui nous ont concocté des hors-séries. Alors toi, Eric, tu es l'ancien correspondant. Hein, tu as le regard de celui qui était à Washington sous Obama. C'était quelle année déjà ?
2010-2014.
Voilà, 2010-2014 à Washington. Est-ce que tu as perçu des changements à Washington dans la vie politique américaine aussi au travers du balado ? Alors là, il y a des ambulances, mais c'est pas toujours comme ça, hein, je te rassure.
Non, je veux pas aucun changement. Pourquoi tu me poses cette question ? Évidemment. Non, alors plus sérieusement, dans le système, la mécanique, là, j'ai pas. Enfin, ça n'a pas énormément changé. En tout cas, j'ai bien reconnu ces choses-là à travers les expériences que vous avez racontées dans le podcast, dans le balado. Je pense que ce qui a changé, c'est la chair qui est dans le système, l'intensité, le rythme. Là, vous avez vécu des choses qui sont incroyables. Vous êtes passé dans une essoreuse, une double essoreuse même, l'essoreuse Trump et l'essoreuse pandémie.
Et t'es pas un peu jaloux là, vraiment, quand même, Eric ? Excuse-moi, mais Obama, ça paraît un peu terne hein, maintenant.
Bah ouais, c'est vrai, il faut bien. Mais vous avez conscience d'avoir vécu quelque chose de fou quand même.
Ouais.
Bah, on essaye après, enfin je pense qu'on va prendre un peu de recul, ça prendra plus de temps, mais c'est vrai que c'était assez incroyable. Jordan, toi on te présente parfois comme l'américain de service, hein, t'es un natif de Los Angeles sur la côte ouest, Californie. Qu'est-ce que tu penses de l'image des États-Unis de ton pays dans le regard de correspondant francophone ?
Moi ce que j'ai aimé faire, c'est que j'ai aimé suivre en fait l'évolution même. J'ai trouvé dans vos regards où... on sentait un peu le regard plus extérieur tout au début du podcast. Et puis on sent à mesure du temps que vous avez passé là, je trouvais que aussi vous aviez souvent le même regard que moi sur le pays. C'était fascinant de voir aussi l'évolution de vos regards sur le pays. Et puis finalement, comme si voilà, c'était aussi peut-être parce que c'était un moment tellement intense. Mais je trouve que souvent, ce que vous avez fait était assez juste. Il y avait beaucoup de couleurs, aussi avec des récits. Des moments de la prise du Capitole, moi j'ai regardé ça. Je pense des fois vous avez mieux raconté que certaines choses qu'on écoutait à la radio aux États-Unis. Et non, chapeau, parce que c'était vraiment un plaisir de voir ce regard évoluer au fil du podcast.
En tout cas, Jordan et Eric, un grand merci à vous pour les hors-séries, parce que nous, correspondants ici depuis 4 ans, parfois plus longtemps aux États-Unis, on a appris beaucoup de choses grâce à ces numéros que vous avez proposés. Franchement, c'était assez formidable.
Et ça se complétait bien hein, sur le flux d'un balado, d'un podcast. Vous dites comment, podcast ou balado maintenant ?
Oh bah nous, on dit les deux, non ?
Oui, c'est vrai, balado. Maintenant, je vais adopter ça. Je vais essayer de diffuser ça largement ici en Suisse, en tout cas.
Voilà, et on retiendra donc qu'on a des regards de Californiens sur les États-Unis, c'est ça ? Puisqu'on voit les États-Unis comme tu aurais pu le voir, Jordan. On veut pas vous faire envie, mais on est assis au bord du Potomac, dans l'herbe. Il fait grand beau à Washington. La vie a repris un peu ici dans la capitale. Et on vous dit encore merci et à bientôt. Au revoir.
Bah, à très bientôt, c'était un privilège d'être avec vous.
Merci les garçons.
Salut, merci. Salut. Hein.
Bye.
Nous sommes toujours au bord du Potomac, posé dans l'herbe. Les terrasses sont ouvertes. On voit qu'il y a beaucoup d'Américains qui profitent du soleil et du retour des beaux jours à Washington.
Oui, ça c'est intéressant. C'est peut-être un héritage plus positif de la pandémie aux États-Unis. Vous avez peut-être remarqué ici à Washington, les terrasses poussaient un peu partout, alors qu'on voit moins ça en temps normal. On les voit davantage à Montréal ou en Europe. Et à New York particulièrement, on a vu le nombre de terrasses exploser. Il y en a 10 000 en ce moment, c'est 10 fois plus qu'en temps normal.
Et en parlant de terrasse, sur le restaurant dont nous parlait Grégory, où les Obama vont parfois fêter leur anniversaire de mariage, ils ont installé des sortes d'igloos pour que les gens puissent manger à l'extérieur en toute sécurité. Une campagne présidentielle racontée, narrée au travers de Washington DC, c'est évidemment beaucoup de rencontres, beaucoup d'événements politiques, mais on tente aussi parfois de s'extraire de cette bulle de Washington avec des reportages dans les États américains, les 50 États américains. Je sais pas, quelqu'un les a tous fait, ces États américains, finalement ?
Non.
Quelques-uns.
Vous en êtes à combien ?
41.
Oh, wow. Pas mal. Moi, une trentaine, je pense.
C'est plus facile quand tu habites dans le pays à côté, quand même.
Et toi, tu collectionnes les magnets des États américains. Anne, t'en as à combien sur ton
frigo ? Alors, j'ai compté hier soir. J'ai des magnets de 34 États américains. Il va falloir se dépêcher si je veux avoir les 50. Le plus beau, je crois, c'est ce flamant rose articulé qui vient de Floride. Et puis, j'ai rapporté un spécimen assez sympa de la Nouvelle-Orléans.
Sinon, il y a une solution, c'est de s'auto-envoyer dans des États particulièrement lointains. Hawaï, par exemple. exemple. Jamais ma radio m'aurait envoyé un reportage là-bas. Donc j'y suis allé en vacances, c'est assez magnifique. D'ailleurs, je crois que dans un épisode précédent, je vous avais envoyé une petite carte postale de là-bas.
Oui, c'est vrai, on t'avait eu depuis Hawaï. Reportage, donc, des histoires qui vous ont marqué. Évidemment, il y a le Covid qui a été au cœur de nos reportages ces derniers mois. Mais toi, Anne, tu nous proposes un reportage qui t'a particulièrement marqué sur une autre épidémie passée presque inaperçue aujourd'hui.
Oui, il s'agit de l'épidémie d'overdose due aux opiacés. Quand je suis arrivée aux États-Unis, j'avais en tête ce chiffre qui paraissait incroyable à l'époque, 64 000 morts en un an dus aux excès d'héroïne ou de médicaments opiacés. C'était plus que le nombre de victimes cumulées d'accidents de la route et de victimes d'armes à feu. Et je suis allée en Virginie occidentale, l'état le plus touché du pays. J'ai rencontré des familles de victimes, des usagers. Et j'ai passé du temps avec les ambulanciers du service des urgences. Jeff Agnew m'a parlé de l'angoisse qu'il saisissait quand il voyait des enfants assister à la descente aux enfers de leurs parents.
Yeah, I've been to a lot of overdoses with the kids in the back car, screaming, banging on the window. One day, a few months ago, we ran like...
J'ai vu beaucoup de cas d'overdose où les enfants sont à l'arrière de la voiture en train de crier et de taper à la fenêtre, dit Jeff, qui précise avoir déjà eu à répondre à 10 overdoses en même temps. Et il raconte avoir débarqué une nuit chez des gens alors que des enfants de 3 et 7 ans étaient en train d'apprendre par téléphone les consignes pour réanimer leurs parents. Et il y avait encore sur le canapé les seringues, la drogue. Il était visiblement ému. Quand l'alerte a retenti et qu'il a dû repartir précipitamment, sans doute pour trouver une nouvelle scène de ce genre. Alors la crise des opiacés, c'était vraiment la priorité sanitaire. Elle est passée au second plan depuis l'arrivée du Covid. Mais il faut savoir que le nombre de victimes d'overdose a augmenté pendant la pandémie de coronavirus. Face à la crise économique et l'isolement, beaucoup de toxicomanes ont rechuté.
Oui, c'est vraiment une crise terrible et je trouve qu'on a mis du temps d'ailleurs à en parler. À l'époque de Donald Trump, c'est vrai que ça a été plus médiatisé. J'ai aussi été en Virginie de l'Ouest où j'avais rencontré des mères de victimes qui ont du coup organisé une association pour venir en aide aux familles. Et aussi, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que souvent, ce sont des gens qui ont eu un accident, qui prennent des opioïdes qui sont très facilement distribués ici aux États-Unis et ensuite qui deviennent complètement addicts.
Là, toutes les deux, vous décrivez la situation dans cet état de Virginie occidentale, qui est pas très loin de Washington. Juste un mot pour dire aussi que c'est un état méconnu aux États-Unis, mais qui est absolument magnifique, très jolie campagne. Un endroit qu'on vous encourage à aller visiter. Et il y a notamment une chanson très connue qui parle de cet état, Take Me Home Country Roads, par John Denver, je crois. Et chanson qui décrit assez magnifiquement cet état de West Virginia.
La Virginie occidentale, pas très loin de Washington, avec quelques collines, quelques montagnes. Moi, en tant que Suisse, quand j'ai besoin d'un peu d'altitude, c'est dans cet état-là que je vais. De Virginie occidentale, on part au sud avec toi, Raphaël, en Alabama.
Ouais, de Country Road, c'est peut-être la chanson Sweet Home Alabama qu'on devrait présenter en parlant de ce reportage. Je vous emmène avec moi dans le sud de l'Alabama, dans la région de Mobile. J'y étais en juin 2019. Je vous laisse imaginer la chaleur écrasante de cette région. En tout cas, moi, en tant que Canadien, je trouvais que c'était très, très, très chaud. Et j'y étais allé parce que quelques mois auparavant, on avait découvert l'épave du dernier navire qui avait transporté des esclaves de l'Afrique. C'était des esclaves qui venaient du Bénin vers les États-Unis. C'est une traversée qui était illégale parce que le commerce international d'esclaves avait déjà été aboli. Mais quand même, il y a un riche financier du Sud qui avait décidé de défier les lois et il avait finalement fait brûler le bateau lorsqu'il était arrivé dans la baie de Mobile. Et on a retrouvé donc des années plus tard, cette épave qui était encore sous l'eau quand j'y suis allé, mais je suis allé en compagnie d'une descendante d'un de ces esclaves. Je vous laisse écouter sa réaction. Il s'appelle Jocelyn Davis et on était donc au-dessus du bateau qui a amené son ancêtre vers les États-Unis.
We all want some type of closure. And this closure will be not only for me, but for my ancestors.
Donc Jocelyn nous dit à quel point ce genre de découverte pourra permettre aux descendants comme elle de tourner une page dans l'histoire de leur famille. Elle envisageait peut-être un jour même retourner sur les traces de son ancêtre au Bénin. Et puis, on espère aussi, dans la communauté où vivent encore beaucoup de descendants de ces esclaves, qu'on puisse éventuellement profiter de la présence de cette épave de navire. C'est un quartier assez défavorisé où ils vivent et on espère pouvoir faire un musée qui pourrait donc rapporter un peu d'argent au voisinage.
Oui, l'héritage de l'esclavage, c'est une question qui reste très actuelle. Bien sûr, il y a les inégalités raciales face à la justice, à la police, mais aussi face à l'environnement. Et il y a cette nouvelle notion de racisme environnemental qui a d'ailleurs été évoquée cette semaine par un rapport des Nations Unies.
Grégory, toi, tu nous emmènes dans une église de Détroit.
Oui, août 2018, vous vous souvenez évidemment de la disparition d'Aretha Franklin, la reine de la soul. Ce jour-là, moi j'étais en reportage à Pittsburgh quand on apprend la mort d'Aretha et je regarde sur mon GPS et je suis à 4h30 de route de Détroit. Je me dis, ok, allez, il faut y aller.
À côté quoi.
À côté, aux États-Unis, c'est une distance finalement assez réduite. Et j'arrive à Détroit devant une église qui s'appelle la New Bethel Baptist Church qui était l'église du père d'Aretha Franklin, qui est l'église où la toute petite Aretha a commencé à chanter quand elle était gamine. Et j'arrive et là il y a une foule très impressionnante, très recueillie, qui chante du Aretha. Je rentre dans l'église et là je commence à discuter avec une femme qui parle français, qui s'appelle Radia Fry et qui est venue rendre hommage à la reine de la soul.
Moi, son corps est parti, mais son âme est toujours là parmi nous, parce que comme je chante aussi, c'était mon inspiration depuis toute petite fille. J'ai grandi avec son musique. C'est elle, la reine de la soul. Toutes les chanteuses américaines, si tu chantais la soul musique, il faut passer par elle ou quoi. C'est pour ça que je suis venu, parce que je me sens proche de elle. Et je me sens. J'étais vue deux fois ici à l'église en chantant. Le dimanche, je suis venu, elle était là. Et ma famille a grandi aussi autour de cette église.
Comment c'était Aretha Franklin jouant du piano ou chantant ici dans cette petite église? C'était comment?
C'était comme Dieu était là avec nous. Hein. Et quand il chante, on sent la présence de Dieu. Parce que Dieu était là avec elle, c'est clair.
Et figurez-vous que cette femme, Radia Fry, vous la connaissez peut-être, est-ce que ça vous dit quelque chose?
Non.
Alors les Français la connaissent parce que c'est la mère de la chorégraphe Mia Fry qu'on a vue à la télévision il y a quelques années. Et puis surtout, Radia Fry a chanté avec Nino Ferrer sur l'album Le Sud. L'album s'appelait Nino Ferrer et Radia. Et si vous retrouvez la pochette de ce disque, eh bien c'est Radia Fry, superbe, qui pose nue.
Elle est à côté de Nino Ferrer.
À côté de Nino Ferrer. Et c'est pour ça qu'elle parle aussi bien français, parce qu'elle a vécu dans le sud de la France avec Nino Ferrer il y a quelques années. Incroyable personnage rencontré totalement par hasard. Et ça fait partie des petits miracles du reportage parfois.
Rien que le son, rien que la bande sonore de l'événement nous plonge dans cette Amérique incroyable.
Et en particulier dans ce pays, quand vous débarquez dans une église baptiste, quand vous assistez à une cérémonie, je repense par exemple aux funérailles de George Floyd à Houston au Texas, il y a ces images sonores qu'on a essayé toutes ces années de vous donner à voir pour que vous puissiez vous aussi partager cette ferveur-là.
Sonia, toi, tu nous emmènes sur les pas de jeunes migrants, un périple de 400 kilomètres, une marche entre New York et Washington.
Oui, c'était vraiment un moment très fort et j'ai été très impressionnée par l'énergie, la résilience de ces jeunes dont l'avenir était vraiment en jeu sous Donald Trump. Alors moi, je les ai rejoints à peu près au Maryland, donc j'ai pas fait New York, Washington. Mais si la Cour suprême m'était fait en Dakar, alors ces jeunes Dreamers qui sont sans papiers, sont arrivés très jeunes aux États-Unis, eh bien, ont été renvoyés dans un pays qu'ils ne connaissent pas ou très peu. Et puis aussi, le Dakar leur permet d'avoir la vie de jeunes Américains normaux, entre guillemets, c'est-à-dire de pouvoir passer leur permis, de pouvoir travailler. Donc vraiment, leur vie était vraiment en danger. Et malgré tout, eh bien, il y avait cette marche très festive. On entend aussi certains qui jouaient de la guitare. Et certains étaient accompagnés de leurs jeunes enfants pour une partie du voyage. C'est notamment le cas d'Anna Maria qui m'a confié avec une grande émotion à qu'elle était terrifiée pour l'avenir de ses enfants, des enfants d'immigrés en général, des sans-papiers. Mais avec humour, elle m'a raconté ce que certains enfants, dont le sien, eh bien, disaient.
My oldest one knows that Trump has separated children from his family, from their families. And he knows that people are afraid.
Elle me dit, l'aîné, mon fils a 7 ans, il parle de Trump tout le temps, il en parle avec ses amis, ils savent qu'il a séparé des enfants de leur famille, il sait que beaucoup de gens ont peur. Avec ses amis, ils ont pensé à faire des manigances, par exemple, ils se sont dit, et si on entrait à la Maison Blanche et qu'on donnait à Trump une soupe périmée, et puis il irait aux toilettes toute la journée, alors ça c'est la version polie pour la traduction, et il ne pourrait plus être président, ils inventaient ce genre de solutions, me dit-elle.
Ouais, l'immigration, ça va rester un thème politique fort aux États-Unis. Trump, quand il était en Floride, il en a de nouveau parlé, il a évoqué à nouveau son mur, et puis Joe Biden en a fait une priorité.
Anne. Oui, il a dit qu'il allait offrir un chemin vers la citoyenneté à ces jeunes dreamers, et c'est un vrai soulagement pour eux, même si ils sont méfiants quand même, parce qu'ils attendent que ce soit fait. Ils ont eu déjà des espoirs douchés dans le passé.
Un autre thème qui est omniprésent dans ce pays-ci, et on le constate même ici à Washington, ce sont les inégalités économiques. Raphaël, c'est de ça que tu nous parles, toi, dans ton souvenir de reportage.
Moi, je vous propose un reportage sur la côte ouest, dans la Silicon Valley. Alors, moi, je trouve que passer du temps dans un pays, ça aide souvent à casser des clichés. Et un des clichés qui s'est brisé chez moi, c'est cette image un peu idyllique de la Silicon Valley technologique. Alors, nous sommes en voiture avec le sergent Wally McGee du commissariat de Mountain View.
Sorry if it's a little messy in here. This is our office in this car.
Google, we got Microsoft, LinkedIn, a lot of Silicon Valley-based companies here.
Autour de nous, on voit un peu les géants du numérique, les bâtiments de Google, Microsoft, le réseau LinkedIn. Et j'avais fait un reportage chez ceux qu'on appelle le peuple des parkings. Vous avez déjà entendu ?
Oui, c'est les gens qui vivent...
dans la rue, ou dans des camping-cars, ou dans leur voiture. Des gens qui n'arrivent plus à payer un loyer tellement tout est devenu trop cher autour de San Francisco. Et ils vivent donc dans un véhicule. J'avais rencontré des familles au bord de la route, dans un camping-car, ou alors Manuel, qui travaille dans une maison de retraite.
Can I come in?
Ok. Yeah, for the rent, it's very expensive. One bedroom, maybe $2,000 for a month. Two bedroom, probably $3,000. Right here, we have many things. The pillows, bedroom is right there. Right here, we have right here rice.
Manuel qui me fait visiter sa cuisine dans son camping-car. Manuel est ce qu'on appellerait aujourd'hui un essential worker, un travailleur essentiel, et un travailleur qui ne gagne pas assez d'argent, qui vit dans la rue depuis 3 ans sans eau courante, qui doit utiliser des toilettes publiques car son salaire ne lui permet pas de louer un appartement.
Tu sais, Raphaël, moi j'étais allé à Mountain View faire un reportage sur le même sujet. Et bon, quand on va en reportage, on va toujours louer une voiture. Moi, je loue toujours une voiture économique. Et là, cette fois-là, bien, il n'y en avait plus de voitures économiques à l'aéroport de San Jose. Donc, on m'a donné une Tesla, ce qui est merveilleux, ce qui est extraordinaire. J'avais jamais testé la conduite d'une Tesla. Mais après quelques minutes, j'ai réalisé que j'allais faire un reportage sur les inégalités économiques. C'était peut-être pas la meilleure voiture pour aller à la rencontre de gens qui, justement, vivent dans une région où le coût de la vie est trop cher, justement.
L'Amérique, effectivement, c'est aussi ça, un concentré d'inégalités, à la fois le meilleur et le pire qu'on documente souvent, il faut dire, en tant que journaliste, mais aussi le meilleur, et je crois qu'on est tous assez d'accord pour relever cette incroyable capacité qu'ont les Américains à faire face aux catastrophes, cette espèce de résilience américaine.
Ouais, c'est une des caractéristiques formidables des Américains, cet inébranlable optimisme, cette certitude que quoi qu'il arrive, ils peuvent se relever, ils peuvent recommencer à zéro et réussir à nouveau. Mais ce que je voulais dire à propos de voiture, ça m'a fait penser, tu te rappelles Greg, quand on avait loué un super 4x4 pour partir couvrir cet ouragan
à Wilmington,
en Caroline du Nord, Il y a eu un moment un peu épique où j'étais au volant et on passait dans un endroit où il y avait l'eau qui montait. On se disait, on a un bon 4x4, mais quand même. Et t'étais descendu de la voiture.
J'avais une idée de génie, c'était de marcher devant la voiture avec de l'eau jusqu'à la taille pour dire à Anne, ça passe, suis-moi.
Ouais, sauf qu'à un moment, moi j'ai vu un fil électrique qui pendait au-dessus de l'eau. Je me suis dit, mon Dieu, il va être électrocuté. Et à ce moment-là, évidemment, j'ai calé. Et tout de suite, j'ai eu cette vision d'horreur. Grégory électrocuté, moi inondé, en train de monter sur le toit du 4x4. Enfin, tout s'est bien terminé.
Et d'expliquer à nos radios respectives qu'on avait perdu un 4x4 dans les inondations.
Et tout le matériel.
Et puis finalement, comme par un miracle, le 4x4 a redémarré et tu es venu me récupérer dans le fleuve un peu plus loin.
C'était quel ouragan là? Parce qu'il y en a eu plusieurs ces dernières années.
Je crois que c'était Florence.
D'accord. Ouais. Parce que vous avez plus de chance. Moi, j'étais resté coincé 3 jours quand même dans les inondations. J'avais pas réussi à m'extirper de cette région-là. Sonia?
Oui, on parlait de la résilience des Américains. Je pense qu'ils ont vraiment cette capacité à rebondir qui est très impressionnante, une capacité organisationnelle aussi remarquable. Et c'est vrai, je me rappelle, ça m'avait marqué au moment de la terrible fusillade à Las Vegas en 2017. J'étais arrivée quelques heures après, j'avais été interviewée des secouristes. Et là, déjà, il y avait des Américains qui leur amenaient des repas tout prêts. Et c'était comme ça dans tout le quartier. Et ça, je trouve, cette solidarité est très impressionnante.
Et on en a vu des scènes un peu partout à travers nos années aux États-Unis. Moi, j'ai encore en tête les images de New York au pire de la pandémie le printemps dernier, alors que la ville avait des airs finalement d'endroits désertés, de villes fantômes. Tout de même, à 19h tous les soirs, les gens allaient sur le balcon de leur petit appartement new-yorkais pour taper sur des casseroles, remercier le personnel de la santé. Puis je suis retourné à plusieurs reprises depuis et on voit que la ville tente de s'adapter, on tente de passer à travers une crise qui n'est pas terminée sur le plan économique, avec entre autres ces terrasses qui ont poussé un peu partout et que j'évoquais un peu plus tôt dans l'épisode.
Avec cette attitude terriblement américaine. Ce balado Washington DC qui a aussi sa petite communauté très active sur notre compte Twitter et qu'on voulait ici tous ensemble franchement remercier. C'est plusieurs milliers de personnes qui communiquent avec nous.
8300 abonnés à notre compte Twitter avec lesquels on échange régulièrement. Moi, il y a un truc que je trouve assez beau finalement, c'est que j'ai l'impression que les auditeurs ont entendu la bonne camaraderie, voire même l'amitié qui nous a unis pendant ces presque 18 mois dans ce projet. Et visiblement, ça s'est entendu, ça fait plaisir.
Et d'avoir leur retour aussi, de voir ce qui les intéresse le plus, éventuellement des questions, c'était vraiment un outil très intéressant.
Oui, vous vous rappelez, il y a eu cette famille, les Rancoules de Miami, qui ont visité la capitale fédérale en allant dans chaque endroit où on a enregistré un épisode.
C'était très sympa, ça.
Des gens de toute la francophonie, le Canada, la Belgique, la Suisse, la France,
l'Afrique
aussi. Et puis
la
Raphaël.
Louisiane. J'étais en Louisiane comme Anne il n'y a pas très longtemps. Je suis allé à la rencontre d'un de nos abonnés très actifs, Joseph Dunn, et je lui ai demandé de nous dire une petite phrase liée au balado en français créole.
Moi, j'aime ça beaucoup écouter Washington DC. Ce qui veut dire, j'aime beaucoup écouter Washington DC.
Et ça m'a inspiré des recherches plus poussées en Louisiane pour découvrir peut-être des expressions qui pourraient être liées au balado. Et j'en ai trouvé une.
Ah.
Dans la région de Lafayette, pas très loin de Lafayette, il y a une petite ville qui s'appelle Washington. Et il y a cette expression que m'a partagée Ashley Michaud à propos de cette ville de Washington.
Oui, il y a une expression que je crois que j'ai appris de M. Kirby Jambon qui dit...
Génial.
Quand quelqu'un parle de Washington, on a un Washington ici dans la Louisiane, pas loin d'ici, ça dit, tu parles de Washington ici, d'ici ou là-bas. Ça veut dire Washington here, Washington DC ou Washington là-bas, à côté de
bon,
Oregon.
Il faut refaire l'habillage du podcast avec cette dame formidable.
C'est Raphaël Bouvier-Auclair, journaliste d'investigation en Louisiane. En parlant de journaliste qui lâche pas le morceau, Grégory, un petit mot sur Grégory Philippe et sa quête impossible de l'interview de Bruce Springsteen.
Mais il n'a pas renoncé encore.
Non, c'est un échec total, je crois qu'il faut le dire. Ça fait 4 ans que je cherche à interviewer le boss du New Jersey. Ça marche pas, j'y arrive pas.
Tu sais que Barack Obama lui a réussi dans son balado.
Oui, je sais, ils ont fait un podcast ensemble tous les deux. J'ai quand même réussi à interviewer le bassiste du E Street Band. C'était à Asbury Park dans le New Jersey, il s'appelle Gary Talent. Et comme j'ai pas pu parler au boss, j'ai demandé au bassiste pourquoi ce coin du New Jersey était à ce point musical et me fascinait personnellement.
When we were kids, we could play any kind of music we wanted to. There's bars up and down the strip. Everybody, there was always places to play. We were just doing cover music.
Et Gary Talent, le bassiste du Street Band, s'il vous plaît, m'explique, quand on était gamin, on pouvait jouer n'importe quelle musique ici dans les bars, les clubs, partout, on faisait des reprises, de la Motown, de la Stax et même de la pop anglaise. À l'époque, on n'attendait rien de nous. C'était une bonne manière d'apprendre notre métier de musicien. Voilà, j'ai quand même, durant ces 4 ans, interviewé le bassiste du E-Street Band.
Félicitations.
Bravo, mais tu sais, Bruce va peut-être te rappeler.
S'il nous écoute, Bruce. Washington DC, enfin, c'est 2 beaux bébés. Cheyenne, le fils de Sonia, qui parle maintenant. Sonia, est-ce qu'il sait dire Washington DC?
Ah bah après, vous allez l'entendre.
Can you say Washington DC? DC? Washington DC, Cheyenne?
Oh, mais c'est parfait.
Il le dit très très bien aussi.
Et Astor, voilà. Il sait le dire?
Alors Astor, c'est l'autre bébé qui est né pendant ce podcast, mon petit garçon qui est juste derrière. Il a 2 semaines, on va attendre un petit peu avant de le mettre dans le balado.
Il est adorable.
Ouais, on est très honoré qu'il soit là pour notre dernier épisode.
Bonjour Astor. It was not an ordinary election. Le jingle avec la voix de Kamala Harris, rappelez-vous, c'était prémonitoire, c'était pas une élection ordinaire,
ça,
oui.
C'est clair.
Mais c'était une belle aventure quand même, qui a aussi été possible grâce au travail de l'ombre de nos réalisateurs, Sandro Lichy, Mathieu Balmer, Alexandre Davoine, côté RTS.
Et à Radio-Canada, Virginie Gagnon-Leduc, Daniel Martineau et Dimitri Katadotis.
Et la voix off de ce balado s'appelle Céline Tso, qu'on remercie également. On va pas vous dérouler tout le générique, il y a du monde à la coordination, à la diffusion entre Paris, Lausanne, Montréal et Bruxelles. Greg aurait certainement voulu finir en musique avec... Au hasard, Bruce Springsteen, on a prévu autre chose.
Mais dehors, c'est l'Amérique.
Vous vous rappelez?
Ah ouais.
Bien sûr.
C'est très sympa, ça.
Qui souffle à travers les têtes.
Eric John Kaiser.
Un auditeur de l'Oregon,
et dehors,
de Portland.
C'est l'Amérique.
Très belle voix.
Très belle chanson.
Ou juste un rêve. Peut-être.
Il avait écrit ça pour nous.
Voilà, il avait réadapté l'une
exclusif.
De ses musiques.
Et j'écoute.
Voilà.
Washington DC. Avec Greg Phillips, Anne Corbett, Sonia Dridi. Et j'écoute Washington DC. Avec Raphaël Grand, Raphaël Bouvier-Auclair. Merci. On y est tous des étrangers. On y cherche tous notre vérité. Faut remettre le compteur à zéro. L'Amérique, c'est parti.
Ça fait bizarre, non?
Ouais, c'est... Oh, bon, on va gagner un peu de temps libre, hein, on va dire.
Voilà. Faut le voir comme ça.
Un morceau enregistré effectivement à Portland, en Oregon, dans la fumée des incendies. Et puis, avant de quitter, on vous a donc parlé d'un certain Astor. Et puis moi, j'ai amené quelque chose pour ce monsieur. Attendez voir, je crois que je dois voir. Laissez-moi juste, je ne sais plus où j'ai mis ça.
C'est la guitare de Springsteen.
Dédicacée. Non, c'est Springsteen. Regardez, il est là-bas, Bruce qui arrive. Voilà, c'est pour voilà. Le papa. Et ben, puisque la maman n'est pas très loin, je pense qu'on peut dire qu'elle elle est juste un peu derrière. Voilà, c'est pour Astor.
On ouvre.
Voilà.
Oh là là.
Oh waouh. Un petit t-shirt nouveau-né, mais aux couleurs de Washington DC, wow. Avec le sigle. Après les masques, vous vous souvenez, on avait fait des masques au début de l'épidémie. Merci beaucoup les amis.
Voilà, à enfiler au milieu de la nuit entre 2 et 3 heures du matin. Ça doit déjà être sa taille à Astor. Voilà, c'est l'heure, je crois, de se dire au revoir. Merci à toutes et tous d'avoir partagé cette aventure avec nous sur les bords du Potomac, pas loin du Watergate Hotel où ce balado, ce podcast a commencé. On vous dit à bientôt avec peut-être d'autres correspondants, d'autres élections, ça c'est sûr. Une Amérique en tout cas qu'on a aimé vraiment vous raconter. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Washington DC avec
Sonia Dridi, RTBF,
Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada,
Anne Corpet, RFI,
Grégory Phillips, France Info,
Raphaël Grand, Radio-Télévision Suisse.
Réalisé par
Sandro Lichy.
Et vous alors, cet été, vous êtes dans les cartons aussi, vous rentrez?
Eh ouais, retour à Paris pour moi.
Retour à Paris pour moi aussi, mais quelque chose me dit que Raphaël Bouvier-Auclair, on va se recroiser assez rapidement.
Ouais, je vais déménager aussi à Paris pour Radio-Canada. peut-être un futur balado.
Ben oui, il y a des élections.
Vous prenez le Québécois dans vos valises.
Sonia, Raphaël, venez aussi.
Et toi, Raphaël, tu fais quoi ?
Eh ben pour moi, c'est aussi le retour en Suisse.
Moi, je reste ici, voilà. J'essaierai d'avoir Springsteen pour toi.
Bien que quelqu'un s'occupe de Joe Biden.
And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.